RCF.
Catholique et société, avec Yann Lecoz, le regard d'un catholique aujourd'hui face aux multiples défis de son temps.
Bonjour Monsieur Janson, bonjour Yann, et bonjour Michel qui nous a rejoint. Nous parlions il y a quelque temps de cette notion de pouvoir dans l'entreprise. Et vous aviez attiré notre attention sur le fait très important que le pouvoir n'appartient pas qu'au chef, qu'il est un petit peu le fait de tout un chacun. Mais alors, moi, ça me gêne et ça m'amène immédiatement une autre question. Comment tout cela peut-il être animé ? Autrement dit, comment peut-on donner un peu de corps, un peu de sens à la subsidiarité au sein de l'entreprise pour que ça ne soit pas tiré à U et à Dia?
La première chose peut-être à faire, c'est commencer par observer le fonctionnement de toute entreprise. Dans toute entreprise, on peut se poser une question très simple, c'est est-ce que ça marche tout seul? C'est-à-dire, est-ce que les décisions qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise se prennent soit par des systèmes ou par des personnes, et est-ce que tout ça, ça fonctionne tout seul? L'observation montre que, évidemment, il n'y a rien qui marche tout seul, mais quand on est organisé pour se simplifier la vie. Et la question du dirigeant, c'est une question assez simple aussi au plan opérationnel, c'est comment m'assurer que les meilleures décisions puissent être prises au bon endroit, au bon moment, par les bonnes personnes. Et donc, pour revenir au principe de subsidiarité, l'intérêt...
Donc vous pouvez nous rappeler le contenu, parce que c'est peut-être pas très clair pour certains de nos auditeurs.
Alors, le principe de subsidiarité, pour l'exprimer simplement, consiste à dire qu'il ne faut pas se substituer dans la prise de décision aux personnes qui sont capables, parce que c'est leur compétence et parce que c'est leur responsabilité, de décider là où elles sont. Et donc, se substituer à elles, c'est-à-dire décider à leur place, c'est commettre une injustice d'une part, parce qu'on leur rend pas ce qui leur est dû, on ne respecte pas, en fait, on les respecte pas dans leur domaine de responsabilité, et en même temps, c'est pas efficace, c'est pas très intelligent comme façon de procéder.
Et ça, c'est des points importants que souligne Pionze dans l'énoncé du principe de subsidiarité.
Voilà, il y a à la fois une question de respect des personnes dans l'intégralité de leur responsabilité et une sottise. Et donc, pour revenir au fonctionnement de l'entreprise, si on veut être à la fois très dynamique en permettant à chacun de remplir intégralement le rôle qui devrait être le sien, et à chacun et aux équipes d'atteindre l'efficacité qui est visée, il faut s'assurer que les chaînes de prise de décision fonctionnent convenablement.
Mais est-ce que ça veut dire que sur le terrain, directement au bas de l'échelle, pour parler d'échelle hiérarchique, une personne peut être dotée de pouvoirs de décision?
Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, il y a les pouvoirs de décision qui découlent de l'organisation elle-même, c'est-à-dire que dans l'organisation de l'entreprise, il est évidemment souhaitable de clarifier qui est habilité à prendre quel type de décision et comment choisir les gens, d'ailleurs.
Par exemple, le choix des collaborateurs.
Ben oui, si on prend juste cet exemple-là, choisir les collaborateurs, qui doit en décider? Est-ce que c'est la personne qui va utiliser le collaborateur, j'aime pas tellement le terme utilisé, mais enfin, qui va être responsable du collaborateur, qui doit avoir le dernier mot?
Ou le DRH?
Ou le DRH, qui décide de quoi? Ben c'est quelque chose de très important à décider, et c'est au patron de décider comment ça devrait fonctionner. L'expérience montre que dans beaucoup d'entreprises, en fait, quand on n'associe pas les personnes avec lesquelles les nouveaux entrants vont travailler à ce processus de prise de décision, les choses fonctionnent pas bien.
Donc c'est une illustration du principe de subsidiarité.
Voilà, et donc dans beaucoup d'entreprises, bien sûr, on a besoin de gens compétents pour évaluer les candidats, faire tout ce travail autour de la publication d'offres d'emploi, de sélection, etc., faire passer des tests, enfin tout un ensemble de choses. Mais finalement, c'est la personne avec qui le chef de service, pour prendre un exemple
chef d'équipe, au sein d'une équipe.
Au chef d'équipe qui a le dernier mot. Et quel est l'intérêt de faire cela? Ben c'est parce que c'est juste l'exercice de la responsabilité, c'est-à-dire que ce pouvoir n'est pas un pouvoir discrétionnaire, c'est un pouvoir qui un pouvoir de décision qui met le responsable dans la situation où il va devoir assumer les conséquences de sa propre décision. Donc s'il a choisi le bon candidat, ben, tant mieux pour lui et tout ira bien. Si jamais il n'a pas fait le meilleur choix, ben, ce sera à lui de vivre avec le candidat qui correspond pas nécessairement aux besoins.
Alors, je vous propose sur cette une courte pause, et puis nous allons voir tout à l'heure comment celui qui doit vivre en supportant les conséquences des bons ou des mauvais choix qu'il a fait peut en fait continuer à avancer pour dans l'entreprise.
Je reviens sur l'exemple que vous donniez concernant le pouvoir d'un chef d'équipe, d'un chef de service, d'embaucher. Il y a quand même des risques, parce que, excusez-moi les termes, la gueule du client, les abus, un mauvais exercice du pouvoir. Et puis, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça s'applique également à des niveaux modestes, mais importants de l'entreprise, hein, l'opérateur sur sa machine, quel pouvoir peut-on lui donner? Comment éviter les abus de pouvoir, ou les mauvaises utilisations du pouvoir?
Il y a deux façons d'éviter les abus de pouvoir. La première façon, c'est de ne pas faire de délégation de pouvoir. Donc c'est la tentation des organisateurs qui veulent contrôler tout d'en haut et réduire les collaborateurs de l'entreprise à de simples exécutants. La deuxième façon, c'est de effectivement mettre en application le principe de subsidiarité en observant que la meilleure méthode de limitation de l'usage du pouvoir, c'est l'exercice de la responsabilité. C'est assez simple à comprendre.
Un exemple concret, par exemple, avec un opérateur.
Mais ce qui est simple à comprendre, c'est que quelqu'un qui s'apprête à prendre une décision dont il sait qu'il aura supporté les conséquences est conduit à agir avec sagesse.
Prudence.
Parce qu'il n'a pas envie, de se tirer dans le pied, il n'a pas envie de se faire mal, il n'a pas envie de se compliquer l'existence en prenant une trop mauvaise décision. Et donc, l'autre point qu'il faudrait préciser, c'est que lorsque des personnes sont habilitées à prendre des décisions, il faut également clarifier la façon dont les décisions devraient être préparées. Et il est très important de noter que il faut s'inspirer d'un autre principe qui est le principe du respect de chacun dans son domaine de responsabilité. Donc lorsque des décisions vont avoir un impact dans le domaine des voisins, il est absolument impératif, pour agir avec sagesse, de consulter les gens dans le domaine desquels on va pénétrer.
C'est une question de respect des personnes.
C'est une question de respect et c'est une question d'efficacité également, puisque ça permet de tenir compte, de collecter les données pertinentes à la préparation des décisions.
Très bien, oui. Et vous pourriez illustrer sur le terrain ce que donc, je reviens à ça, l'opérateur, quel pouvoir il a? Parce qu'on parle de pouvoir, mais quel pouvoir il a?
L'opérateur, il a le pouvoir de faire ou de ne pas faire. Si on prend un opérateur qui travaille sur une machine, donc navré, c'est du secteur industriel, si l'opérateur constate que sa machine est en train de se dérégler ou de produire une mauvaise qualité, il a le pouvoir réel d'arrêter ou de ne pas arrêter son équipement. Ce pouvoir, soit on va le lui donner, l'entreprise va le lui donner, et lui dire, écoute, si tu constates quelque chose qui n'est pas conforme, on te demande d'arrêter, on te demande d'intervenir, c'est-à-dire de collecter les premières informations, d'appeler à l'aide, de réparer si tu peux réparer, etc. Parce que le but, c'est de faire du bon travail, et le but, c'est de faire des produits de bonne qualité.
Ce qui est l'intérêt du collaborateur aussi.
Alors, ce qui est évidemment l'intérêt du collaborateur, ce qui est l'intérêt de tout le monde, ce qui est un intérêt de bon sens. Lorsque on prive l'opérateur de ce pouvoir d'intervention, l'observation montre que l'opérateur, de toute façon, il va s'adapter. C'est-à-dire que si sa machine commence à faire une mauvaise qualité et qu'il n'a pas le droit d'arrêter, il n'a pas le droit d'intervenir, bah, il va laisser faire, il va laisser courir, il ne va même pas avertir. Et puis, si à un moment donné, on vient lui faire le reproche d'un mauvais travail, il dira c'est pas moi, c'est pas de ma faute, et j'y peux rien. Et puis, et dans le pire des cas, il va masquer la situation pour se mettre à l'abri, c'est-à-dire il va penser à se protéger lui-même pour éviter les coups venus de sa hiérarchie, au lieu de contribuer à résoudre un problème et donc de contribuer en cela à mettre en ordre en fait tout ce qu'il faut pour atteindre les objectifs principaux de l'entreprise.
Ça va très loin parce que finalement, c'est encourager les gens à ce que je pourrais appeler l'esprit de vérité, dire quand il y a quelque chose qui ne va pas.
Ben, c'est le principe de réalité. Si on est en dehors du principe de réalité, est-ce qu'on peut prendre de bonnes décisions qui sont conformes à l'intérêt de tout le monde ?
Donc encourager les collaborateurs à dire et à parler vrai. Qu'est-ce qui se passe ?
Mais bien sûr, mais il faut absolument... On a beaucoup parlé de liberté d'expression ou de droit d'expression, ce qui est une sottise. En fait, il vaudrait mieux parler de devoir d'expression et libérer la parole pour autant qu'elle soit utile au fonctionnement de l'entreprise et à l'atteinte de ses objectifs. Et évidemment, le rôle politique du dirigeant consiste à mettre en ordre l'organisation de son entreprise, a clarifié les lignes directrices pour donner à chacun intérêt à bien faire.
Alors, Monsieur Janson, si vous le voulez bien, je vous donne rendez-vous pour une prochaine rencontre, parce que là, je crois que nous avons besoin, sur ce rôle politique du dirigeant, d'avoir encore quelques échanges. Cette réflexion paraît très, très importante pour le bien de nos entreprises et pour le bien de tout un chacun. Merci.